Je pense que ça m'a vraiment fait comprendre qu'il faut quand même changer quelque chose quand on voit que la situation n'est manifestement pas juste.
C'était une montagne de problèmes. Je me suis demandé pourquoi on n'apprenait pas d'abord le français. Pourquoi pas ?
Au cours des dernières décennies, le système scolaire luxembourgeois a eu du mal à modifier son approche par rapport aux langues, bien qu'il n'ait pas manqué de discussions et de tentatives. Cet épisode tente d'élucider pourquoi ces tentatives ont échoué. Je m'appelle Pia Oppel, je suis journaliste pour Radio 100.7. Dans ce podcast, je vous raconte l'histoire d'un mauvais élève. Il s'agit de notre système scolaire dans lequel beaucoup d'enfants échouent et ont déjà échoué autrefois. Un petit rappel, ce podcast en 6 épisodes a été publié en 2022 dans sa version originale en luxembourgeois. Mauvais élève, un podcast Radio 100.7, épisode 2, retour vers le futur. Le 11 décembre 1957, le bâtiment de la toute première école européenne a été inauguré au Limpertsberg. Une école pour les enfants des fonctionnaires qui travaillaient pour les premières institutions européennes créées après la guerre. La cérémonie s'est terminée par la représentation d'un opéra pour enfants. L'idée de l'école européenne était que les enfants des fonctionnaires peuvent suivre les cours dans leur langue maternelle. Au début, il y avait 4 sections linguistiques, française, néerlandaise, italienne et allemande.
Denn wir wollen la richesse par la diversité, wie Paul-Henri Spaak es einmal ausgedrückt hat.
Voici le ministre de la Culture de Rhénanie-Palatinat, Eduard Hort.
Aber über die Diversité.
Il explique pourquoi tous les élèves de l'école européenne apprennent au moins 2 langues étrangères afin de pouvoir fréquenter et comprendre les enfants des autres sections linguistiques.
Excellences, mesdames, messieurs, mes jeunes amis, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de remettre à l'école européenne, au nom du gouvernement luxembourgeois, cet édifice.
Le Premier ministre Joseph Pech s'est montré très fier. Avec son école européenne, le Luxembourg a pu se positionner comme un lieu attrayant pour les institutions européennes. En fait, c'était de la diplomatie plutôt qu'une mesure de politique éducative. Le nouveau modèle scolaire, aussi exemplairement européen qu'il était, n'a pas été conçu comme un modèle pour le système scolaire luxembourgeois. Mais après de longs détours, il s'est passé exactement ce qui n'était pas censé se passer.
Ça veut dire qu'on doit copier, alors que normalement, on n'est pas censé de faire ça à l'école. Mais dans ce cas-ci, on doit copier, on doit s'inspirer des écoles européennes, de leur aspect positif.
Je vous présente Martin Hansen. Ce discours date de mars 2022, donc 65 ans après l'inauguration de la première école européenne. À ce moment, Martin Hansen est encore député du CSV et à la Chambre des députés, elle plaide pour une réforme de l'école traditionnelle inspirée par le modèle européen.
Les langues, c'est très souvent un moyen de faire le tri. C'est peut-être une expression un peu dure, mais c'est malheureusement le cas. Pour beaucoup d'élèves, les langues sont un obstacle à la construction de leur avenir.
L'idée de copier les écoles européennes a en fait déjà été exigée dans les années 70. Pas à la Chambre des députés, mais par des enseignants et des parents engagés. Ces derniers se sont réunis en 1974 pour former une association. Et l'hasard fait bien les choses, cette réunion a lieu dans l'ancien bâtiment de l'école européenne au Limpertsberg.
On a organisé une réunion avec les parents d'élèves. Il y avait principalement des parents italiens et portugais, mais aussi quelques parents espagnols.
En 1974, Karin Elsen était dans la dernière année de sa formation en tant qu'enseignante d'école primaire. Elle fait partie des membres fondateurs de la nouvelle Association de défense des intérêts des élèves étrangers.
Là, on a essayé de leur parler dans leur langue maternelle et de leur montrer que leurs enfants avaient aussi des droits et que c'était eux aussi qui devaient revendiquer ces droits.
L'engagement politique de Karin Elsen a été motivé par sa foi. Plus précisément, grâce à la messe pour les jeunes qui a lieu les samedis soirs en ville.
Cela s'appelait la paroisse de la jeunesse. Il y avait des jeunes de tous les quartiers qui ont aidé à moderniser les messes. Et c'est là que j'ai rencontré des enseignants et enseignantes. Et on a commencé à travailler aussi à d'autres niveaux. On s'est rendu compte que les étrangers n'avaient aucune chance ici, qu'ils ne trouvaient pas d'endroit pour vivre. Les enseignants que j'ai rencontrés avaient déjà donné des cours depuis plusieurs années. Et donc, ils avaient remarqué que ces enfants avaient des problèmes. Et c'est comme ça que c'est développé Forum 80 000.
Karin Elsen est aussi membre fondatrice de Forum 80 000. Cette ASPL s'est fixée comme objectif de défendre les droits des quelques 80 000 étrangers dans le pays, et en particulier des travailleurs immigrés.
On s'est divisé en plusieurs groupes thématiques et j'ai surtout été dans le groupe consacré à l'enseignement pour voir comment mieux intégrer les enfants étrangers dans les différents quartiers de la ville et comment les aider à mieux se débrouiller avec notre système scolaire.
Dans les années 70, les inégalités du système scolaire deviennent un sujet d'actualité. Une première étude scientifique de l'époque montre qu'au Luxembourg aussi, le milieu social joue un rôle important dans les performances scolaires. L'idée selon laquelle la réussite à l'école n'implique que l'intelligence et l'assiduité est donc fondamentalement remise en question. Un autre défi s'y ajoute. Au milieu des années 70, près d'un élève sur trois en école primaire n'a pas la nationalité luxembourgeoise. Et on constate que les enfants de travailleurs immigrés quittent souvent l'école sans diplôme. Les activistes de Forum 80 000 sont donc à la recherche de solutions et l'école européenne apparaît souvent dans les débats. Pour les activistes, c'est la preuve qu'il existe des solutions s'il y a la volonté de les mettre en œuvre.
Pour les fonctionnaires européens, tout allait bien, nous n'avons pas manqué de moyens. Mais pour les travailleurs, c'est la même histoire depuis toujours. C'est des gens qui ne se défendent pas aussi durement et fortement.
L'école européenne était donc un modèle pour les activistes du Forum 80 000. Et ils ont exigé qu'il y ait une section francophone dans le système scolaire luxembourgeois.
Comité de défense des travailleurs immigrés dans das orandim contexte sternen an dat over da forum 80.000 wurde.
Vous avez pris des notes formidables des réunions que vous aviez à l'époque et vous avez posé une question très simple à M. Hostad, le fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Que compte faire l'État ? Et vous avez en fait obtenu une réponse plutôt évasive à ce moment-là. Que vous a répondu M. Hostad ?
J'ai reçu la réponse suivante. Pour planifier quelque chose, nous devons d'abord savoir si les gens vont rester ici ou pas. Et c'est une question à laquelle il n'y a tout d'abord pas eu de réponse. Deuxièmement, cela ne résout pas le problème de l'école. Peu importe que les gens restent ici un an ou 10 ans, leurs enfants doivent recevoir une éducation décente, peu importe la durée de leur scolarité. Mais il n'y a eu aucune réponse à ce sujet.
Vous avez aussi noté ce que l'a fait avec vous, cette conclusion, enfant.
Oui, j'avais l'impression que c'était une réponse évasive. On ne savait jamais vraiment si la volonté politique était de faire quelque chose pour ces enfants. Je me souviens de ce qu'on disait toujours, nous voulions des travailleurs, mais sont venus des êtres humains. Et oui, je pense que cela m'a poussé à penser qu'il faut changer quelque chose. Quand on voit que la situation n'est manifestement pas juste, il faut essayer de la changer. Et quand on est jeune, on a encore beaucoup d'élan, on n'a pas encore vécu tellement de déceptions. Après, avec l'âge, on se calme un petit peu, mais au début, on pense que si on travaille tous ensemble, ça va fonctionner.
Au lieu d'attendre une réforme majeure du système scolaire, Karin Elsen a pris elle-même l'initiative de changer les choses en tant qu'enseignante. Elle n'était pas toute seule, je vais vous en parler dans un moment.
Vous voyez ici, c'était la cour d'école. L'école se trouvait le long de la rue, comme ce bâtiment-ci. Et ici, c'était la cour avec une entrée. Malheureusement, des gens traînaient dans la cour en soirée et ça n'était pas bien pour nos enfants.
En 75, Karin Elsen a commencé à travailler à l'école du quartier de la Gare en ville. À l'angle de la rue de Strasbourg et de la rue du Commerce se trouvait alors un autre bâtiment scolaire. Mais la situation dans cette école était déjà similaire à celle d'aujourd'hui. Dans de nombreuses classes, il y avait peu d'enfants qui parlaient le luxembourgeois à la maison.
L'idée est venue d'apprendre à lire et à écrire en français au lieu d'apprendre en allemand. L'allemand était ajouté comme deuxième langue. Et après la troisième année de la classe expérimentale, on intégrait une quatrième année normale.
Ce que vous avez créé, en fait, c'est une petite école européenne située dans la rue de Strasbourg. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
C'est une comparaison très large. C'est la version mini. Il y avait une classe dans la rue de Strasbourg et une classe dans la rue de la Congrégation en ville.
La titulaire de cette classe était Edith Jacobs, une autre activiste Forum 80 000. Aujourd'hui, elle vit à Nancy. Quand je lui rends visite, elle a 86 ans. Mon collègue Pierre Ryland m'a accompagné. Voici Pierre et moi qui essayons d'enregistrer le GPS avec notre micro au moment de traverser la frontière française. On n'a pas réussi.
Border crossing.
Edith Jacobs n'était pas là. Une heure et un café plus tard, nous avons eu plus de chance. Edith Jacobs a manqué notre rendez-vous car elle avait oublié de vérifier son agenda ce matin.
Je suis sœur Edith, je n'ai jamais été Joffer Jacobs, j'ai toujours été sœur Edith, parce que je fais partie de la congrégation des sœurs de la doctrine chrétienne, qui a en fait été fondée pour se consacrer à l'enseignement il y a longtemps, il y a quelques centaines d'années.
Dans sa chambre, sous une grande croix accrochée au mur, Edith Jacobs nous raconte comment elle a fondé l'atelier Zeralda avec une autre sœur dans les années 70. C'était la première maison relais du Pfaffenthal où les enfants recevaient de l'aide pour leurs devoirs et où ils pouvaient emprunter des livres.
Et là, nous avons rencontré à travers les enfants des familles qui étaient dans des situations très difficiles. Ceux qui ne savaient pas lire, ceux qui ne comprenaient pas et ceux qui ne pouvaient pas aider les enfants.
En 75, donc l'année où Karin Elsen a commencé à travailler dans le quartier de la gare, Edith Jacobs avait reçu une classe avec juste des enfants portugais dans la rue de la Congrégation en ville haute.
Je ne savais pas comment apprendre autrement l'allemand aux enfants portugais et essayer de les faire comprendre. Il y avait donc une montagne de problèmes. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par enseigner le français? C'est plus proche de leur langue. Leurs parents doivent également parler français pour pouvoir travailler et vivre au Luxembourg. Pourquoi ne pas le faire comme ça? J'ai donc fait une demande à la commission scolaire pour commencer en français en première année d'école primaire.
Donc, vous avez fait la demande?
Oui, oui, et ils étaient d'accord. J'ai reçu le matériel, ce qui est rarement un problème au Luxembourg. Je pense qu'à la commune, ils ne se souciaient pas vraiment de ce qu'on faisait. L'essentiel était qu'il n'y ait pas de plainte et qu'on ne dise pas que les écoles luxembourgeoises ne valent rien, et ainsi de suite.
Pour que les enfants puissent comprendre qu'un son en français peut s'écrire de plusieurs façons différentes, il y avait des comptines.
La souris a mis du riz dans le nid de ses petits.
Les enfants étaient ravis de l'apprendre et en un quart d'heure, ils connaissaient ça par cœur. Une fois, il y a une petite qui est allée lire quelque chose. Et ensuite, elle a dit en zozotant « Mais je sais lire, moi !» Je l'entends encore, c'était vraiment magnifique. Le seul inconvénient pour moi, c'est qu'ils n'ont pas appris le luxembourgeois. C'était le côté négatif. Mais c'était agréable de donner cours ainsi, alors qu'en allemand, c'était une corvée.
Edith Jacobs et Karin Elsen ont vécu la même expérience. L'alphabétisation en français était relativement facile pour les enfants. Mais en quatrième année, les enfants ne sont pas prêts à réintégrer le système normal comme prévu. Karin Elsen est arrivée à la conclusion qu'il n'est pas important par quelle langue on commence. Pour les enfants, quelle que soit la langue qu'ils parlent à la maison, elle est d'avis qu'il serait préférable de commencer plus tard avec la deuxième langue.
Il faut savoir fixer une langue, surtout si ce n'est pas sa langue maternelle. D'autres enfants apprennent à lire et à écrire dans leur langue maternelle, nous non.
Après leurs expériences avec l'alphabétisation française, les deux enseignantes choisissent d'autres voies. Edith Jacobs a déménagé à Nancy. Karin Elsen est de retour dans une classe normale à Hollerich. Leurs initiatives personnelles laissent peu de traces. La ville de Luxembourg ne poursuit pas le projet. Dans les années 80, l'école du Brill à Esch lance une expérience similaire qui, elle aussi, est abandonnée quelques années plus tard.
L'école luxembourgeoise n'a pas éprouvé un besoin de renouvellement, je pense. On aurait dû être à plusieurs pour réussir à changer quelque chose, pas juste un petit groupe.
Vous avez été des combattantes solitaires.
Oui, oui.
La seule tentative de tirer un bilan à propos de l'initiative des deux enseignantes a été faite, à ma connaissance, par un fonctionnaire du ministère de l'Éducation. J'ai découvert ce rapport par hasard dans les archives de la Chambre des députés, et puis j'ai retrouvé son auteur.
Ja, guten Morgen.
Ja, moyen, hier ist Pierre Oppel.
Ah, bonjour, bonjour.
Fais un peu de papier.
Vous l'avez bien devant vous, le document ?
Je l'ai devant moi, oui.
Le point 7, si vous voulez, pouvez-vous le relire ? Quel était votre constat à l'époque ?
Un second. Conclusion, constatation. La progression dans l'apprentissage de la langue française est très rapide en première année d'études. Cela s'explique probablement par le fait que le français et les langues portugaises et italiennes sont des langues apparentées et que la motivation des enfants pour l'apprentissage du français est plus grande que pour l'allemand. Les enfants peuvent donc communiquer rapidement en langue française.
Quand on entend ça, on peut penser que le projet a en fait été un succès.
Oui, pour le français, c'était bien. Mais pour une intégration ultérieure dans une classe normale, là, leur niveau d'allemand n'était pas suffisant.
On peut se poser la question si ce n'était pas ça le problème principal du projet. L'idée selon laquelle les enfants retourneraient en quatrième année dans un système où ils devraient en fait avoir un niveau de langue maternelle en allemand.
Mais d'après ce système,
oui, mais c'était à cause du système qui existait à l'époque où, même après l'école primaire, il n'y avait presque plus de filière francophone. Je suis arrivé au ministère en 1976. Avant, j'étais titulaire d'une classe d'accueil pour les enfants de 12 à 15 ans qui étaient venus à cet âge au Luxembourg et qui apprenaient en premier le français. Je me souviens encore, j'avais un enfant turc dans cette classe, un enfant très intelligent, et j'ai recommandé au garçon d'aller dans un lycée en Belgique. Ensuite, il est allé en Belgique et il est devenu médecin. On voit là qu'une filière francophone peut aussi mener à quelque chose.
Dans les années 80, après que vous ayez fait ce rapport, ce n'était plus le socialiste Robert Krieps qui était ministre de l'Éducation, mais Fernand Baudon du Parti chrétien social. Est-ce qu'alors il y a encore eu des discussions pour intégrer la langue française différemment dans le système scolaire ?
Il n'y avait guère de volonté, disons ça comme ça.
Mais pourquoi pas ? Au lycée classique, le français était pourtant une langue très bien considérée.
Je ne comprends pas non plus. C'était simplement une tradition au Luxembourg.
L'idée d'une alphabétisation en français avait donc été abandonnée. À la place, Otto Neuens a recommandé d'enseigner l'allemand différemment. Et c'est précisément ce consensus qui a été atteint en 83 lors du premier grand débat organisé par la Chambre des députés à ce sujet. C'était un moment étrange parce qu'il y avait un large consensus sur le fait qu'une réforme était nécessaire. Trop d'enfants quittaient le système scolaire sans diplôme. Mais rien n'a été fait.
Il faut que les deux langues, le français et l'allemand, soient enseignées en tant que langue étrangère.
Voici l'ancienne députée du CSV, Erna Hennico, qui lit un extrait de son discours à la Chambre de février 83. L'allemand devrait être enseigné comme une langue étrangère, selon elle. Il ne faudrait donc plus s'attendre à ce que les enfants comprennent et utilisent déjà l'allemand au quotidien. De nouveaux manuels et d'autres méthodes d'enseignement auraient été nécessaires. Mais juste avant que le Parlement ne procède au vote sur cette résolution, le ministre de l'Éducation, Fernand Bodden, propose de remplacer cette proposition par une formulation très vague. Selon le ministre, l'allemand devait être enseigné de manière à tenir compte des connaissances préalables de tous les enfants. La manière exacte de mettre cela en œuvre n'a pas été précisée par Fernand Bodden. Son argument pour ce changement était le suivant. Pour les enfants luxembourgeois, l'apprentissage de l'allemand en tant que langue étrangère aurait été trop lent. Une affirmation que personne n'a remise en question. En fin de compte, et sans aucune protestation, la Chambre a supprimé de sa résolution la seule phrase qui aurait pu apporter un changement concret. Et voilà que votre ministre vous a pris à revers à la dernière seconde.
Et oui.
Comment avez-vous réagi ?
Eh bien, il fallait vivre avec, hein.
Oui ?
Oui, le rapport a été adopté à l'unanimité. Personne d'autre ne s'est plaint de ce passage.
Saviez-vous que ce changement allait arriver ?
On nous a très probablement avertis, car sinon il n'aurait pas été adopté comme ça. Il est facile d'argumenter à propos de ce qui aurait pu être fait.
Vous trouvez que je juge trop rapidement ?
Oui.
Peut-être qu'Erna Hennico n'a pas tout à fait tort. Il est facile de poser des questions critiques 40 ans après un débat à la Chambre. Trancher au niveau politique est certainement plus difficile. Pour le contexte de l'époque, les syndicats d'enseignants s'opposent fermement à l'alphabétisation française. De son côté, l'inspecteur général pour les écoles primaires a plaidé pour une branche française à l'école primaire et le consensus à la Chambre est que les sections de langue, comme dans l'école européenne, mèneraient à des ghettos. Simple ou pas, le choix politique de 83 était de laisser les choses comme elles étaient. En 95, Erna Hennico est elle-même devenue ministre de l'Éducation. Elle a notamment introduit le précoce, c'est-à-dire l'année scolaire avant l'école maternelle, et elle a aussi supprimé l'examen d'entrée au lycée, malgré beaucoup de résistance. Ce sont deux mesures importantes pour lutter contre les inégalités du système scolaire. Une réforme de l'enseignement des langues n'a pourtant pas été envisagée. Il n'y a plus eu de discussion à ce sujet ?
Non.
Pourquoi pas ?
Parce qu'elle est compliquée. Et les gens ont peur de la complexité du problème.
En mars 2012, une grande manifestation du personnel enseignant a eu lieu. Plus de 5000 personnes ont manifesté dans la rue Notre-Dame devant le ministère de l'Éducation pour protester contre la réforme du lycée et contre la réforme de l'enseignement primaire, déjà en vigueur depuis un certain temps. La ministre de l'Éducation du LSAP, Maddy Delvaux, ne parvient pas à résoudre le conflit avant les élections anticipées en 2013, déclenchées par l'affaire du service secret. L'opposition au projet de réforme de Maddy Delvaux atteint son apogée avec les manifestations de mars 2012, mais les critiques émergent déjà avant, quand la ministre propose de réformer l'enseignement des langues. Pour résumer brièvement,
Maddy Delvaux a proposé que les élèves n'aient pas besoin d'atteindre le même niveau dans toutes les langues pour obtenir un diplôme. Le ton du débat est devenu assez rude. La mort de l'allemand est le titre d'une lettre ouverte adressée à la ministre de l'Éducation. L'auteur de la lettre, un professeur d'allemand dans un lycée classique, n'a pas voulu m'accorder d'interview. J'ai donc juste pu en parler à la destinataire, Maddy Delvaux. Eh bien, voici la dernière partie de cette lettre. Je cite « Si un jour la barrière des trois langues tombe, les étrangers se débrouilleront beaucoup mieux. » À qui sera présentée la quittance dans ces cas?
Oui, je pense que c'est une déclaration claire que nous devons maintenir ce système afin que les Luxembourgeois puissent conserver leurs emplois. Cela peut être qualifié de racisme, de discrimination. Moi, j'ai toujours pensé que les Luxembourgeois recevaient ces emplois parce qu'ils étaient si doués. C'est l'argument des profs pour défendre leur manière d'être, leur manière d'enseigner. Il y a toutes sortes d'arguments que l'on pourrait trouver. Je ne trouve pas que ce soit le meilleur.
Peu de choses ont changé au cœur du problème des inégalités du système scolaire sous Maddy Delvaux. C'est sa propre conclusion.
C'est le plus grand regret de ma carrière politique, que je n'ai pas réussi à rendre notre système scolaire plus égalitaire.
Si une réforme du système scolaire traditionnel est trop difficile, un moyen politique plus simple est de créer un système parallèle. Et en fait, l'idée de créer une école européenne publique, dite agréée, au Luxembourg, est née par hasard. Lorsque Maddy Delvaux a rencontré Tula Vassilakou, la directrice de l'école européenne au Kirchberg à l'époque.
Une amitié a fleuri qui existe encore. Et puis il y avait René Christmann qui était la secrétaire générale des écoles européennes. On s'est rencontrés et on a parlé, entre autres, de l'école. Et puis elles ont dit « Mais pourquoi tu n'essayerais pas les écoles agréées ?» Et c'est ainsi que l'idée est née de créer une école de ce genre.
Je vous souhaite la bienvenue aux portes ouvertes de l'école internationale de Differdange. Pouvons-nous tester qui comprend le luxembourgeois ici?
C'est le successeur de Maddy Delvaux qui met l'idée en œuvre. La première école européenne agréée a ouvert ses portes en 2016, donc 3 ans après que Claude Maïch du DP est nommé ministre de l'Éducation. L'école internationale de Differdange n'est pas une école privée et coûteuse, mais c'est une école publique et gratuite qui est en principe accessible à tous les enfants. Actuellement, il y a 6 écoles de ce type dans le pays et l'intérêt est grand. Également, lors de la porte ouverte de l'école internationale à Differdange en mars 2022. Mon collègue Pierre Ryland, qui travaille avec moi sur ce podcast, y rencontre beaucoup de parents différents.
Nous sommes portugais, nous parlons portugais à la maison, tout le temps.
Je suis caverlien.
On est belge.
Pourquoi cette offre vous intéresse-t-elle?
Tout d'abord, la langue paternelle de mon enfant est le français. Je lui ai parlé en français dès sa naissance, même en famille. Sa langue maternelle est le luxembourgeois. Voilà, donc je vois une meilleure alternative pour lui ici.
Sandro Parente travaille depuis 18 ans à Differdange en tant qu'enseignant dans le système scolaire traditionnel. À l'école internationale, il a inscrit son fils dans une section française avec l'anglais comme deuxième langue.
Je pense que l'enseignement de l'anglais commence trop tard au niveau professionnel. Aujourd'hui, on devrait commencer plus tôt avec l'anglais. Et cela signifie aussi une remise en question de l'importance des langues. Moi, je suis en faveur du multilinguisme, c'est clair, mais je pense que c'est une division problématique. À un moment donné, il faudra peut-être rééquilibrer les langues.
Rééquilibrer les 3 langues, l'allemand, le français et le luxembourgeois, donc il faudrait changer ce système?
Oui, c'est comme ça que je vois les choses maintenant. J'ai travaillé dans ce domaine et je m'y suis un peu intéressé. L'alphabétisation en allemand, dans notre cas, avec plus de 50% d'étrangers, c'est un peu comme si on enseignait le latin. Vous pouvez entrer dans un magasin, mais vous n'entendrez jamais « Guten Tag »,« Guten Morgen »,« Auf Wiedersehen ». En tant qu'enseignant, c'est un peu frustrant à voir. En quoi est-ce pertinent?
Thank you. Une autre approche aux langues scolaires est donc débattue depuis longtemps, sans que rien de substantiel n'ait changé au cours des 50 dernières années. Mais maintenant, tout à coup, quelque chose a changé. Mais ces nouvelles écoles publiques internationales peuvent-elles résoudre les problèmes des inégalités de notre système scolaire ? Voilà le sujet du prochain épisode.
Sarah, are you ready for the next bit?
Yep. Leave him alone, Ginger. Well, look who it is, friend of yours.
Là, il y avait une petite que je savais aller venir dans ma classe. Donc, son cursus, je pense, était difficile. Elle n'avait pas fait beaucoup de progrès. Elle avait redoublé. Mais ici, elle est chez elle.
Je ne pense pas que c'est vraiment la bonne solution. Nous sommes internationales, mais il ne faut pas oublier le national dans tout cela.
Mauvais élève, un podcast Radio 100.7, recherche et rédaction, Pia Oppel et Pierre Ryland, avec la participation de Tessie Treus, Jean-Claude Frank, Rick Mertens, Chris Zion, Zemir Demic et Marie Trussard. Son et arrangements musicaux, Chris Simon, coordination, Yves Stefani, traduction, Philippe von Leipzig. Notre musique de titre, le Gassenhauer de Lorf Schulwerk, a été enregistrée sous la direction de Laurent Varnier par des élèves du Conservatoire de la ville de Luxembourg. Merci à Joé Alf, Constantin Barbu-Ravou, Michael Kalnen, Félix Dunkel, Lori Krier, Inamola Kava, Lola Schleicher, Julian Zeredinsky, Yushan Lulupang, Louis Till et Ilvis Tvimundi.